Alors, il y a 50 ans, prenait fin la guerre qui a permis au peuple algérien d'obtenir l'indépendance politique et la dignité que l'impérialisme français lui refusait. Le 2 juillet 1962, nos camarades de Voix ouvrière, l'organisation qui a donné naissance à Lutte ouvrière, distribuèrent et défendirent dans les entreprises où ils militaient ce texte. Je les cite. L'Algérie est virtuellement indépendante parce que le peuple algérien s'est battu, les armes à la main pour cela. C'est une grande victoire dont tous les exploités du monde peuvent se réjouir. Elle prouve que lorsque les exploités, si pauvres, si misérables soient-ils, vis-à-vis de leurs exploiteurs, lorsqu'ils sont décidés à rejeter l'oppression, ceux-ci n'y peuvent rien. Et nos camarades, dans cet éditorial intitulé « Les Bastilles qui restent à prendre », poursuivaient, je les cite, « Par ailleurs, l'émancipation qu'a conquise le peuple algérien n'est que nationale et non pas sociale. Bien sûr, c'est déjà énorme. Les Algériens ne seront plus des étrangers dans leur propre pays, voués à toutes les humiliations, mais l'exploitation de l'homme par l'homme n'aura pas disparu d'Algérie. Les dirigeants qui ont mené la lutte pour l'indépendance l'ont fait sur des bases nationalistes. Ils ne l'ont pas fait au nom des ouvriers et des paysans du monde entier, afin de construire en Algérie et ailleurs une société débarrassée de ses exploiteurs. Aujourd'hui, nous sommes très fiers que nos camarades aient défendu les idées communistes révolutionnaires durant la guerre d'Algérie. Ils ont exprimé leur solidarité avec le combat des Algériens et affirmé leur soutien à la lutte armée pour l'indépendance. Comme d'autres, direz-vous ? Non, pas seulement. Car tout en soutenant la lutte armée menée par le peuple algérien, nos camarades ont été les seuls à le faire sans se ranger derrière le nationalisme du VFLN, sans taire leurs critiques sur cet appareil qui commençait déjà à se mettre en place. Alors oui, nous sommes fiers d'appartenir à ce courant. La guerre d'Algérie s'est inscrite dans un contexte de révolte contre la colonisation dans le monde entier, mettant en branle les trois quarts de l'humanité, près de 800 millions d'êtres humains. Cette révolte était porteuse d'espoir. Elle aurait pu aboutir à bien autre chose que la mise en place de régimes nationalistes, plus ou moins dictatoriaux, comme cela s'est passé partout, y compris en Algérie. La responsabilité de l'impasse dans laquelle se retrouvait le mouvement de décolonisation repose principalement sur la politique des organisations ouvrières des pays colonisateurs. En luttant pour leur indépendance, les paysans et les ouvriers algériens combattaient la bourgeoisie française, c'est-à-dire aussi notre propre ennemi, notre propre oppresseur. Le mouvement ouvrier en France avait tout intérêt à soutenir cette lutte. Et pour lui, la meilleure façon de le faire consistait à mener son propre combat sur son terrain de classe contre cette même bourgeoisie. Au lieu de cela, les organisations politiques ou syndicales se réclamant du mouvement ouvrier ont trahi ce combat contre la colonisation. Pire, les socialistes ont été à la tête de gouvernements qui ont mené cette sale guerre. Quant au PCF, il a soutenu ses gouvernements socialistes et sa politique a consisté durant toute la guerre à prôner la paix en Algérie. Mais prenez la paix en Algérie, revenez à abandonner les Algériens à leur sort et au bout du compte, à ne pas s'opposer à la guerre. Plusieurs générations de travailleurs ont eu à payer les frais de cette trahison. Dans un premier temps, il y a eu la montée d'une extrême droite fascisante avec l'OAS, l'organisation armée secrète, puis le développement du racisme et des idées réactionnaires jusque dans les rangs ouvriers. Avec la guerre d'Algérie, nos oppresseurs ont mis en place un régime plus dur, la Ve République de De Gaulle. Et puis, nous continuons à payer le fait d'avoir laissé échapper cette occasion d'affaiblir l'impérialisme. Pendant ce temps, la classe ouvrière algérienne a dû supporter le poids de 50 ans de dictature et de répression. C'est de cette histoire que nous voulons discuter ce soir. Et sur ce sujet, je passe la parole à Geneviève Remeringer.
Durant 132 ans, la colonisation de l'Algérie par la France fut marquée par la barbarie. Avant la conquête, l'Algérie, tout en faisant partie formellement de l'Empire ottoman, turc, si vous préférez, était dirigée par une régence vivant des impôts prélevés sur une population majoritairement rurale et de ce qu'on appelait la course, une activité entre piraterie et protection rémunérée des bateaux de commerce en Méditerranée. En juin 1830, la monarchie française fit débarquer 37 000 hommes sur la côte algérienne qui bombardèrent et saccagèrent Alger. Derrière un prétexte bidon, l'avidité commerciale inspirait cette conquête. Le trésor de la régence fut pillé lors de la prise de la ville. Mais les caisses royales de la France n'en tirèrent que 50 millions de francs de l'époque, alors que les richesses du régent d'Alger étaient estimées à 250 millions, sans parler des autres richesses dans la ville. Des centaines de millions se volatilisèrent, mais pas pour tout le monde. En particulier, pas pour les familles Schneider et Devindel, familles de grands capitalistes français qui prospèrent encore aujourd'hui. François-Alexandre Sellière, un ancêtre de Ernest-Antoine Sellière, ex-président du MEDEF, associé à un certain Adolphe Schneider, avait obtenu d'être le fournisseur de l'expédition d'Alger. Fort de quelques 357 bateaux, ils avaient tous deux la main sur le transport des hommes et des marchandises de cette aventure. Et c'est dans la cale de leurs bateaux que s'évaporèrent ces millions. Le hasard faisant bien les choses, c'est à la suite de cette expédition qu'ils devinrent des grands capitalistes de la sidérurgie en France. Après la prise d'Alger, l'opération de conquête se poursuivit, car les généraux espéraient une victoire qu'ils croyaient facile contre des populations rurales. En réalité, l'armée française mit près de 50 ans à conquérir et à soumettre l'Algérie par le fer et le feu. En effet, la conquête se heurta à une résistance farouche. De 1830 à 1847, l'émir Abdelkader mena la guerre contre l'invasion et fit subir à l'armée française une série d'échecs retentissants. Le général Bugeaud fut envoyé pour tenter d'en venir à bout. Il entama une guerre dite de ravageurs. Sa technique consistait à dévaster les zones conquises. « Il ne faut pas courir après les Arabes, disait-il. Il faut les empêcher de semer, de récolter, de pâturer. » Le 19 juin 1845, par exemple, le colonel Pélissier ordonna d'enfumer entre 500 et 1500 personnes réfugiées dans une grotte à Dara. Les soldats attisèrent un feu énorme durant 18 heures pour asphyxier tout le monde, hommes, femmes et enfants. Cela fit un peu scandale en France, mais ce colonel n'en fut pas moins promu maréchal de France. Plus de 100 000 hommes furent indispensables pour vaincre l'armée d'Abdelkader. Cette guerre s'était accompagnée de tant de massacres et de cruautés que les résistances et les insurrections embrasaient le pays au fur et à mesure de l'avancée de l'armée. Avec la conquête, comme l'écrivit un historien de l'Algérie, un vol d'hommes de proie s'abattit sur le pays. La monarchie française accapara non seulement les terres appartenant à l'Empire ottoman, mais aussi celles des seigneurs locaux, des tribus révoltées et les terres collectives des populations rurales. En 1870, 500 000 hectares avaient déjà été volés et distribués aux colons envoyés en Algérie, du moins à certains colons. Car contrairement à l'un des mythes de la colonisation de l'Algérie, les terres n'ont pas été en majorité cultivées par de pauvres émigrants venus mettre en valeur un pays laissé à l'abandon. D'abord parce que les terres, loin d'être abandonnées, ont été arrachées de force aux paysans. Mais aussi parce que la grande majorité des colons venus d'Europe allaient peupler les villes et non pas les campagnes. Un tiers seulement d'entre eux s'installa dans les campagnes. Dès le début, l'expropriation des terres algériennes profita donc à de gros colons, à des capitalistes, à des spéculateurs qui développèrent une agriculture d'exportation. Pendant ce temps, les populations rurales algériennes furent condamnées au cantonnement. Les communautés villageoises étaient déportées, refoulées dans les zones les plus stériles, souvent montagneuses et hostiles, dans des sortes de réserves indiennes, où elles perdaient leurs attaches, leur cohésion et s'appauvrissait inexorablement. Pourtant, les révoltes se poursuivirent. En 1871, à la faveur de la défaite française face à la Prusse, et en même temps que la Commune de Paris, une insurrection générale se propagea dans tout l'est du pays, en Kabylie et dans le Constantinois. 100 000 hommes se levèrent pour combattre l'armée coloniale. Cette révolte ne fut écrasée qu'au bout de 9 mois de lutte incessante. La répression fut implacable, car elle visait à faire régner la terreur. Avec l'avènement de la Troisième République en France, une nouvelle période s'ouvrit pour l'Algérie. Une période pire par bien des aspects, car la République bourgeoise allait imposer la domination directe des colons. L'ère de l'impérialisme débutait. Des millions d'hectares supplémentaires furent volés. Les populations endurèrent des famines récurrentes, souvent accompagnées d'épidémies. Ainsi, en quelques décennies, la population algérienne était tombée de 3 millions à moins de 2 millions d'habitants, soit une disparition de plus d'un tiers. La colonisation s'installait avec ses injustices et ses humiliations permanentes. Des impôts dits « arabes » furent infligés aux seuls Algériens, faisant reposer sur eux l'ensemble des frais de la colonisation. En 1881, ils furent soumis à un code de l'indigénat, établissant une liste de dizaines d'infractions spécifiques, comme par exemple le fait de voyager sans permis de circulation, car tous les Algériens qui voulaient sortir de leur village devaient en demander l'autorisation. Des sanctions exorbitantes s'abattaient sur les Algériens, baptisés indigènes, allant de l'internement aux amendes collectives et au séquestre de terres. Durant toute la colonisation, les Algériens n'eurent jamais aucun droit politique reconnu. Leur représentation politique se résumait à quelques élus dans les conseils généraux, sans pouvoir décisionnaire. L'Algérie était soi-disant française, mais les Algériens, des parias, des sujets corvéables à merci, des étrangers dans leur propre pays. D'un autre côté, de plus en plus d'Européens s'installaient en Algérie. La majorité d'entre eux étaient des pauvres, envoyés peupler l'Algérie. Pour souder tout le monde derrière les grands colons, peu nombreux, la puissance coloniale sut utiliser les différences au sein de la population. Ainsi, en 1870, avec le décret Crémieux, les Juifs algériens se virent accorder la nationalité française. Ils n'étaient pas des colons, mais des autochtones installés dans le pays bien avant la conquête militaire française. Mais ce décret permettait de les séparer des Arabes en les traitant différemment. Puis en 1889, tous les descendants d'Européens nés en Algérie, Italiens, Espagnols et autres, obtinrent la nationalité française. Non seulement les grands colons s'appuyaient sur ces divisions pour maintenir leur domination sociale et politique, mais ils distillaient l'idéologie raciste qui servait de justification au colonialisme. Leur discours raciste était bien rodé. Ils pouvaient affirmer tranquillement, à tout bout de champ, que les Arabes n'avaient pas les mêmes besoins qu'eux, c'est-à-dire qu'ils pouvaient vivre sous-alimentés, dans des maisons délabrées en terre, sans école pour leurs enfants, sans reconnaissance de leur dignité et de leurs droits. Alors le poison du colonialisme, du mépris raciste, de l'arrogance des petits blancs s'infiltra dans toute la société coloniale au-delà des grands colons, affectant aussi ce qu'on appela plus tard les pieds noirs. Tout en étant pauvres, ils pouvaient mépriser plus pauvres qu'eux. Et le moins qu'on puisse dire pourtant, c'est qu'ils restaient pauvres, alors que la société coloniale était de plus en plus dominée par une oligarchie financière richissime. Avec le temps, la majorité des terres fut accaparée par quelques milliers de familles de grands colons. Et parmi ces familles, quelques dizaines seulement finirent par monopoliser aussi les circuits de la distribution, le crédit agricole, la presse et bien sûr la représentation politique. Au début du XXe siècle, les paysans algériens commencèrent à quitter les campagnes pour fuir la misère. Ils se retrouvaient dans les bidonvilles des métropoles algériennes ou dans ceux des métropoles françaises, car de plus en plus d'entre eux immigraient pour aller travailler dans les usines en France. Malgré elle, la colonisation transformait les paysans algériens en prolétaires modernes. C'est d'ailleurs par la voie de ce prolétariat international que se firent entendre les premiers appels à l'émancipation et à l'indépendance des peuples colonisés. En effet, de son côté, la bourgeoisie algérienne ne fut jamais le fer de lance de la lutte contre la présence française en Algérie. Soit elle s'accommoda de cette domination, soit elle fut assimilationniste, c'est-à-dire qu'elle revendiquait l'égalité des droits sans aller plus loin, ne cherchant au fond qu'une forme de reconnaissance sociale pour elle-même. Alors, le drapeau de la lutte contre l'oppression coloniale fut levé par la révolution prolétarienne en Russie. L'Internationale communiste issue de cette révolution mit à l'ordre du jour la lutte contre le colonialisme comme élément indispensable de la lutte contre la domination de la bourgeoisie impérialiste. Pour les communistes des pays impérialistes, mener réellement la lutte contre la colonisation devint une des 21 conditions d'adhésion à l'Internationale. Mais l'Internationale communiste affirmait aussi que le prolétariat devait prendre la tête de ses luttes et rallier à lui les peuples opprimés, car il ne s'agissait pas d'abattre la colonisation pour mettre au pouvoir des privilégiés locaux, mais de mettre fin à toute forme d'exploitation économique. Ainsi, l'Internationale communiste offrait une perspective révolutionnaire aux peuples colonisés, la seule qui permette de se débarrasser véritablement de l'oppression impérialiste. En Algérie, la majorité des militants du mouvement ouvrier étaient d'origine européenne. Même parmi ceux qui rejoignirent les rangs communistes, les idées de lutte contre la colonisation ne furent pas admises facilement. Une grande partie de ces militants exprima même son opposition à la politique révolutionnaire de l'Internationale en affirmant qu'une révolte arabe signifierait le retour au féodalisme. Ces militants se préoccupaient peu, hélas, du sort des Algériens. D'ailleurs, ils n'avaient même pas de presse en arabe. Paradoxalement, c'est en métropole que les communistes français militèrent le plus vis-à-vis des travailleurs coloniaux. Depuis la Première Guerre mondiale, il y avait plus de 100 000 ouvriers algériens en métropole, et certains participèrent aux grandes grèves de 1919-1920. Le Parti communiste créa une organisation, l'Union intercoloniale, dont le but était de rassembler les travailleurs immigrés originaires de toutes les colonies. Le journal de cette organisation, le Paria, dénonçait clairement le système colonial et s'affirmait pour l'indépendance de toutes les colonies. Dans la même période, lors de l'occupation de la Roure par l'armée française, les communistes cherchèrent à s'adresser directement aux soldats algériens embarqués dans cette opération. Je cite un de leurs tracts. Après avoir volé vos terres, ils vous prennent pour les aider à voler l'Allemagne. Les ouvriers et les paysans allemands souffrent de l'occupation de leur pays, comme les ouvriers et les paysans des colonies ont souffert et souffrent encore sous la botte des impérialistes français. Aux élections municipales qui suivirent, le Parti communiste, loin de tout électoralisme, présenta un militant algérien sur ses listes, de la même façon qu'il présenta des femmes à ces élections. Il se servait alors des élections, non pour gagner des postes, mais pour faire de la propagande et faire avancer la conscience politique des travailleurs. En 1924, dans la partie du Maroc dominée par l'Espagne, des insurgés menés par Abdelkrim avaient proclamé la République indépendante du RIF. Le gouvernement français vint à la rescousse de l'armée espagnole en difficulté. Il fallut 800 000 hommes et presque 2 ans de guerre totale pour venir à bout des 75 000 rebelles d'Abdelkrim. Le Parti communiste, et en particulier ses jeunesses, mena une campagne active contre cette guerre coloniale. Il soutint publiquement Abdelkrim, le félicitant de ses victoires contre l'armée française. Les militants firent de la propagande antimilitariste dans les casernes, appelant à refuser d'obéir aux gradés, à fraterniser avec les combattants marocains. Le 12 octobre 1925, le PC organisa la première grève politique de plusieurs dizaines de milliers de travailleurs contre une guerre coloniale. Le Parti communiste montrait ainsi concrètement qu'il était possible à des révolutionnaires, même peu nombreux, non seulement d'affirmer leur solidarité avec une lutte anticoloniale, mais surtout de mener leur propre combat contre leur bourgeoisie sur le terrain de la classe ouvrière. En Algérie même, le gouverneur général Violette, dont nous reparlerons, réprima durement cette campagne politique contre la guerre du Rif. 137 militants communistes furent envoyés au bagne dans le sud du pays et leur journal fut censuré. Mais beaucoup de militants communistes européens en Algérie, ceux qui étaient en Algérie, ayant été formés à l'école du Parti socialiste, n'arrivaient pas à accepter cette politique internationaliste et ils quittèrent le PC. En revanche, en France, la jeune génération des militants communistes qui avaient mené cette campagne politique insufflait dans le parti un authentique esprit internationaliste. Les communistes des années 20 essayaient de forger un véritable mouvement communiste en Algérie, capable de prendre la tête des masses pauvres pour mener la lutte contre l'oppression coloniale, mais aussi contre tous les exploiteurs, les propriétaires fonciers, aussi bien les féodaux arabes que les colons européens, bref, contre la domination du capital, principalement français. En 1926, en France, dans le milieu algérien, le PC poussa à la création d'une organisation nationale algérienne, l'Étoile nord-africaine, dans laquelle les communistes algériens formaient une fraction organisée. En très peu de temps, cette organisation recruta 4000 membres, principalement des travailleurs. En effet, le jeune prolétariat algérien, influencé par la politique des communistes, gagnait en conscience de classe et en combativité. Mais avec la dégénérescence stalinienne, la politique du Parti communiste changea radicalement. À partir de 1935, Staline fit mener aux différents partis communistes une politique de soutien à leur propre bourgeoisie. En France, cela se traduisit par la participation du PC à l'alliance électorale du Front populaire. Par la même occasion, le PC a abandonné le combat contre l'impérialisme de sa propre bourgeoisie. En Algérie, les communistes avaient formé un parti indépendant, le Parti communiste algérien, le PCA, qui connut la même dégénérescence. Désormais, le Parti communiste algérien se déclarait, je le cite, « pour une Algérie libre et heureuse, fraternellement unie au peuple français, comme à tous les peuples ». En fait, le PCA reniait les idées internationalistes, trahissait le combat pour l'indépendance, le laissant désormais à d'autres. À partir de là, un homme incarna ce combat, Messali Hadj, le dirigeant le plus connu de l'Étoile nord-africaine. Il fit de l'Étoile nord-africaine une organisation, certes marquée par ses origines prolétariennes, mais fondamentalement nationaliste, c'est-à-dire une organisation qui ne défendait aucune perspective de transformation sociale en dehors de l'indépendance politique, une organisation qui restait donc bourgeoise, qui ne se mettait pas sur le terrain des intérêts de la classe ouvrière. Il interdit même aux militants de l'Étoile nord-africaine d'appartenir en même temps au Parti communiste. Malgré tout, le radicalisme de Messali, appuyé sur un mouvement populaire, faisait peur aux classes dominantes algériennes, car l'Étoile nord-africaine continuait à défendre seule l'idée de l'indépendance. Pendant que les représentants de la bourgeoisie algérienne, par la voix de Ferhat Abbas, pharmacien de son État, ne réclamaient toujours que l'assimilation, soit l'égalité des droits avec les citoyens français. Au moment du Front populaire, tous ces mouvements, des bourgeois aux communistes, se réunirent pour soutenir cette alliance électorale du Front populaire dont ils espéraient obtenir au moins l'égalité des droits. Seule l'Étoile nord-africaine se tint à l'écart de ce rassemblement. En 1936, en parallèle aux luttes de la classe ouvrière en France, des grèves eurent lieu dans tout le Maghreb. À Alger, en juin 1936, le mouvement de grève, débuté chez les peintres du bâtiment, se poursuivit dans les compagnies d'essence, dans la métallurgie et chez les dockers. Dans le Constantinois, des grèves importantes, regroupant ouvriers européens et algériens, eurent lieu dans les usines de Liège. Toutes les grèves se soldèrent par des affrontements avec la police. Par ailleurs, des occupations de terres firent trembler les grands propriétaires. Les travailleurs, en s'attaquant directement aux intérêts des capitalistes, ébranlaient en même temps le système colonial. Ainsi, du Maroc à la Tunisie, et même au-delà, les classes populaires commençaient donc à se mobiliser sur le même terrain de classe que les travailleurs en France. Ces luttes auraient pu se rejoindre sur un terrain commun, devenant un seul mouvement de part et d'autre de la Méditerranée, un mouvement capable de lutter contre l'ennemi commun, la bourgeoisie française et son colonialisme. Et bien des militants de l'étoile nord-africaine avaient appris la lutte de classe dans les usines en France. Il n'était sûrement pas impossible d'en gagner une partie à l'idée d'une lutte révolutionnaire de la classe ouvrière contre l'impérialisme. Mais ce n'était plus la préoccupation du PCF. Au contraire même, ce parti proclamait carrément que réclamer l'indépendance, c'était faire le jeu de Hitler. Maurice Thorez, plus tard, lors d'un voyage en Algérie, évoqua, je le cite, « la nation algérienne qui se constitue dans le mélange de 20 races et dont l'évolution peut être aidée par les efforts de la République française ». Une façon assez claire de nier l'existence du peuple algérien et de défendre la présence française dans la colonie. Quant au gouvernement de Front populaire, il s'opposa radicalement à toute idée d'indépendance des colonies. Il défendit les intérêts de la bourgeoisie contre les peuples colonisés, comme il les défendit contre les travailleurs en lutte. En décembre 1936, le gouvernement fit connaître son projet pour l'Algérie, le projet dit « Blum Violette ». Cet ancien gouverneur d'Algérie qui avait pourchassé les militants communistes et qui était désormais ministre du Front populaire. Le seul changement prévu par ce projet consistait à donner le droit de vote à quelques nouveaux électeurs algériens. Les représentants politiques des colons firent obstruction au projet et, comme bien souvent, la gauche au pouvoir s'aplatit devant la réaction. Le projet Blum Violette, pourtant inodore et incolore, fut abandonné sans aucune discussion. Par la suite, en 1937, le gouvernement s'attaqua directement au mouvement nationaliste algérien. Messali fut arrêté et son nouveau parti, le PPA, le Parti du peuple algérien, fut interdit. Tout cela fut ressenti comme une immense trahison par les peuples colonisés par la France. Avec le Front populaire, rien ne changea en Algérie. La misère restait la même. La domination des grands colons ne s'émoussa pas. À la veille de la guerre, Albert Camus, écrivain français né en Algérie, décrivait cette misère des paysans en racontant des enfants en loque qui disputaient à des chiens le contenu des poubelles ou encore des villages entiers fouillant le sol à la recherche de racines pour se nourrir. Quelques années plus tard, la Seconde Guerre mondiale jeta le monde dans la tourmente. En Algérie, la guerre accentua la misère et plongea le pays dans une détresse immense. La faim gagna encore du terrain partout. En 1942, une épidémie de typhus décima les paysans algériens, sous-alimentés, privés de savon et ne pouvant s'habiller que de haillons. Le débarquement anglo-américain de novembre 1942 ne changea pas le sort des populations. Le nouveau pouvoir ne revint même pas sur le statut des Juifs d'Algérie. Comme en métropole, ceux-ci avaient enduré les lois antisémites de Vichy. Mais il leur fallut attendre encore un an après le débarquement et l'arrivée des gaullistes pour que soient abrogées ces lois antisémites. Malgré l'arrivée des prétendus libérateurs, rien ne changeait en Algérie. Même pas le gouverneur, Pérouton, qui passa, sans être inquiété, de Vichy à De Gaulle. Ferhat Abbas, le représentant de la bourgeoisie algérienne, profita de l'arrivée des Anglo-Américains pour publier un manifeste du peuple algérien, dans lequel il réclamait, en échange des efforts demandés pour la guerre, un État algérien fédéré à la France. Ce n'était toujours pas l'indépendance. Les bourgeois algériens, poussés par les événements, radicalisaient leurs revendications. Mais les dirigeants gaullistes, comme tous leurs prédécesseurs, rejetèrent catégoriquement toute idée de réforme. En septembre 1943, le PCA, le Parti communiste algérien, appelait les Algériens au ralliement à la cause de la bourgeoisie française contre l'Allemagne, sans même demander la moindre contrepartie. Alors des milliers de jeunes Algériens furent enrôlés pour aller mourir afin de libérer l'Europe. La puissance coloniale avait besoin d'eux pour restaurer sa domination. À travers cette guerre, ces hommes purent mesurer l'affaiblissement de l'impérialisme français. Finalement, cette guerre bouleversa leur conscience et mena à la révolte. C'est partout dans le monde que la guerre impérialiste et son cortège d'atrocités réveillèrent des centaines de millions d'opprimés dans les pays colonisés qui voulaient désormais prendre leur sort en main. Un des plus grands mouvements de masse de l'histoire s'annonçait dans l'après-guerre. Mais bien entendu, ni les politiciens de la bourgeoisie, ni les grands colons campés dans leur certitude raciste ne pouvaient sentir la marée monter. Alors quelle ne fut pas leur consternation de voir des Algériens manifester pour leur propre liberté en ce mois de mai 1945. Le 1er mai, des militants du PPA, le parti de Messali, organisèrent des manifestations pour l'indépendance de l'Algérie et la libération de leurs leaders. Le gouvernement de l'époque, le CNR, le fameux Conseil national de la résistance, qui comportait des ministres socialistes et communistes, mais qui était surtout présidé par De Gaulle, réprima ces manifestations et on releva plusieurs morts à Alger et Oran. La CGT et le PCF dénoncèrent les manifestants. Dans un tract du 3 mai 1945 intitulé « Les provocateurs hitlériens », le PCF écrivait, je le cite, « La provocation vient du PPA qui prend ses mots d'ordre à Berlin, chez Hitler, celui qui massacre et torture sans distinction les vaillants soldats de l'armée française, européens et musulmans. » Le 8 mai 1945, à Sétif, lors de la manifestation pour fêter la paix, un homme sortit un drapeau algérien. La police avait reçu l'ordre de tirer dans ce cas. Elle le fit et tua le porteur de drapeau. Alors la révolte explosa. 102 Européens, dont 14 militaires, furent tués. Dès le lendemain, la répression débuta. Des milices d'Européens eurent quartier libre pour assassiner. Des villages furent brûlés. Les massacres, les viols, les pillages reprirent, comme dans la pire tradition de l'armée coloniale. Le gouvernement, toujours le CNR, donna l'ordre de bombarder des villages. Il y eut entre 20 000 et 40 000 morts du côté algérien. Tout un peuple se sentit écrasé parce qu'il avait exprimé son aspiration à la liberté. Ce nouvel épisode de la barbarie coloniale se fit avec le soutien ouvert du PCF et du PCA, car les dirigeants communistes étaient membres de ce gouvernement assassin. Les journaux du PC dénoncèrent les manifestations et l'insurrection à Sétif. Seuls quelques militants communistes eurent le courage de soutenir, contre vents et marées, les insurgés algériens. En mai 1945, à Sétif, les colons pensaient avoir anéanti le nationalisme algérien. Rien de tel. Ils avaient semé les germes de la révolte qui allait éclater moins de 10 ans plus tard. Dans ces années d'après-guerre, l'oppression coloniale rimait toujours avec la misère. 90% de la population algérienne ne savait ni lire ni écrire. Et dans les rues des villes algériennes, ceux que le poison colonial n'aveuglait pas voyaient circuler une multitude d'enfants affamés, devenus cireurs de chaussures ou mendiants. En 1947, le gouvernement socialiste de Ramadier attribua un nouveau statut à l'Algérie. Pour la première fois, les Algériens obtinrent le droit de vote. Mais il y avait loin des mots à la réalité. 60 députés représentaient les 9 millions d'Algériens, pendant que 60 autres députés représentaient le million de pieds noirs habitant l'Algérie. Ainsi, le droit de vote entérinait la ségrégation, l'idée qu'un Algérien ne valait pas autant qu'un Européen. Rien ne changeait dans le fond. Au passage, il est bon de noter que si le ministre de l'Intérieur socialiste, Édouard Depreux, futur fondateur du PSU, qui a été à l'origine de ce statut. Et sur la forme, le cynisme des autorités ressemblait à une véritable provocation. Les élections furent truquées ouvertement. On bourrait les urnes alors que 600 militants, dont la plupart des candidats nationalistes, furent arrêtés. Sans parler des violences directes contre les électeurs algériens dans les bureaux de vote. Le nationalisme algérien s'était renforcé depuis la Seconde Guerre mondiale et la répression de Sétif. Des milliers de jeunes gagnés à l'idée de combattre pour l'indépendance rejoignaient les rangs nationalistes. Mais en même temps, ce mouvement connaissait une crise politique. Ses différentes composantes avaient formé un front pour participer aux élections. De nombreux notables avaient rejoint ce front dans l'espoir de trouver des postes de parlementaires.
Ces hommes entraînaient le mouvement dans une voie de plus en plus légaliste. Dans ce front électoral, seul le courant dirigé par Messali continuait à défendre l'idée de la lutte contre la colonisation. Mais il ne se décidait pas, pour autant, à se lancer dans la lutte armée. La façon dont les élections de 1947 s'étaient déroulées avait montré les limites de ce qu'on pouvait attendre de la France. Bien des illusions tombèrent. Alors que le mouvement nationaliste semblait quand même paralysé par les divisions et les querelles de personnes, de jeunes nationalistes décidèrent de se lancer dans la lutte, dans l'action militaire. Ces militants venaient pour la plupart du PPA, du courant Messali. En octobre 1954, Mustapha Ben Boulaïd, Larbi Ben Mehdi, Rabah Bitat, Mohamed Boudiaf, Mourad Didouche, Belkacem Krim formèrent la direction d'un nouveau mouvement, le FLN, le Front de Libération Nationale.
Des militants nationalistes installés au Caire, au Sine Aït Hamet, Ahmed Ben Bella et Mohamed Kider se joignirent à eux. Tous ensemble, ils ne pouvaient compter que sur quelques dizaines de militants en Algérie, de faibles stocks d'armes et un maquis qui s'était tant bien que mal maintenu en Kabylie. Le 1er novembre 1954, ils déclenchèrent l'insurrection armée. Une vague d'attentats frappa tout le territoire algérien ce jour-là. Des casernes furent attaquées. Des attentats visèrent l'usine de gaz et le dépôt de pétrole d'Alger, ainsi que l'entrepôt de Liège d'un des plus gros colons de l'Algérie, Borjou. C'était un véritable coup de tonnerre qui secouait toute l'Algérie. Avec ses actions, le FLN venait de déclarer la guerre au colonialisme. Dans une proclamation diffusée par la radio du Caire, il annonçait au monde entier qu'il entamait la lutte pour la destruction du système colonial et l'émancipation politique de l'Algérie. Mais dès sa naissance, le FLN se fixait comme perspective politique, je le cite, « la restauration de l'État algérien souverain, démocratique et social, dans le cadre des principes islamiques ». Par ces phrases et le choix des termes, le FLN affirmait clairement sa volonté de construire un appareil d'État national. Et malgré la vague allusion à un caractère social de l'État, le FLN rejetait l'idée de combattre pour l'émancipation sociale de la population paysanne et ouvrière, de combattre contre l'oppression capitaliste. Affirmer qu'il faut construire un État national sans poser la question de la classe qui doit prendre le pouvoir, cela revient inévitablement à vouloir construire un appareil d'État qui incarne les intérêts de la classe privilégiée. Dans la même proclamation, le FLN faisait appel, je le cite à nouveau, à tous les patriotes algériens, de toutes les couches sociales, de tous les partis et mouvements purement algériens. En appeler à l'unité de la nation, c'était une façon implicite de rejeter la lutte de classe et donc de vouloir soumettre les intérêts des classes opprimées à ceux des classes dominantes. L'objectif du FLN, comme de toutes les organisations se battant uniquement sur le terrain du nationalisme, était de créer un pouvoir algérien indépendant de la France, mais pas de permettre aux opprimés de prendre le pouvoir eux-mêmes. Avec le déclenchement de l'insurrection armée, le FLN avait mis toute la population et tous les militants devant le fait accompli. C'était un véritable coup d'État par rapport au reste du mouvement nationaliste. Dès le départ, le FLN chercha à s'imposer comme direction de ce mouvement, ne laissant pas le choix aux Algériens. Soit ils étaient avec le FLN, ou plus exactement derrière le FLN, soit ils étaient contre lui. Cependant, le FLN trouva un écho d'autant plus important dans la population que la situation s'y prêtait. L'armée française venait d'être battue en Indochine, à Dien Bien Phu. La révolte anticoloniale avait gagné le Maroc et la Tunisie, où la même misère et la même oppression existaient. La détermination des hommes du FLN à lever le drapeau de la révolte allait rencontrer les aspirations les plus profondes de la population. Après le 1er novembre 1954, la réaction de l'impérialisme français fut dans la continuité de plus de 120 années d'oppression. De nombreux militants furent arrêtés et torturés, des renforts militaires envoyés sur le terrain. Le 12 novembre, le ministre de l'Intérieur de l'époque, un certain François Mitterrand, déclara à l'Assemblée nationale, je le cite, «
On ne négocie pas avec les ennemis de la patrie. La seule négociation, c'est la guerre. L'Algérie, c'est la France. Et la France ne reconnaîtra pas chez elle d'autre autorité que la sienne. Il s'adresse aux députés et il dit « Et qui d'entre vous, mesdames, messieurs, hésiterait à employer tous les moyens pour préserver la France ?» Une prétendue politique d'action sociale fut mise en œuvre. Les militaires organisèrent à la hâte des écoles, des dispensaires, là où l'administration coloniale n'avait jamais daigné jeter un regard. Mais ce n'était qu'une façon d'essayer d'encadrer la population pour endiguer la révolte. Dès le 3 avril 1955, le gouvernement déclara l'état d'urgence sur le territoire algérien. On retrouva les mêmes méthodes qu'au temps de la conquête dans cette guerre sans nom. Guerre sans nom, car le pouvoir, la presse, les dirigeants de gauche eux-mêmes ne parlèrent jamais que d'opérations policières, d'événements en Algérie ou de pacification. Le gouverneur de l'époque, le gouverneur de l'Algérie de l'époque, Jacques Soustelle, qui allait finir à l'extrême droite, accepta la politique de responsabilité collective voulue par les colons. Alors des zones entières furent ratissées, des villages détruits aux canons et des habitants massacrés. Dans sa lutte contre le FLN, l'armée allait chercher à écraser toute la population en la soumettant à une terreur organisée. C'était la logique de toutes les guerres coloniales. Mais en plus, l'armée française avait une revanche à prendre sur les peuples colonisés. Elle venait de subir un échec cuisant en Indochine. Les officiers qui en revenaient d'Indochine firent de cette nouvelle guerre coloniale qui démarrait une croisade contre les communistes, les pauvres, les opprimés. Assassiner, torturer, violer les femmes, tuer des enfants, lire la peur dans les regards. Voilà ce qui leur permettait de penser qu'ils retrouvaient leur honneur. La torture, omniprésente durant toute la colonisation, fut pratiquée dès le début de la guerre contre tous ceux qui étaient taxés de suspects. Et elle se généralisa à partir de 1956. On en reparlera. Dans la guerre d'Algérie, le 20 août 1955 constitua un tournant. Presque un an après le début de la guerre, une véritable émeute populaire eut lieu à Constantine. Des paysans, ceux-là même qui avaient connu les massacres de mai 45, se soulevèrent. 71 pieds noirs, dont des femmes et des enfants, furent assassinés dans des conditions terribles. La puissance coloniale s'était imposée en faisant régner la terreur et la barbarie durant 120 ans. Elle avait semé une telle haine, une telle rage, que les Européens en subissaient les conséquences. Mais cela ne les empêchait même pas de persévérer dans la même voie. En 1955, certains Européens formèrent des milices qui assassinèrent entre 1200 et 12 000 Algériens. Ces événements montraient que le peuple algérien s'engageait dans le combat anticolonial avec le FLN. Pourtant, si la population algérienne choisissait de se ranger derrière lui pour gagner sa liberté, le FLN, lui, n'avait certainement pas choisi d'être l'expression de cette population et de ses intérêts. Pour les dirigeants du FLN, il n'était pas question que la population décide de son sort elle-même. Bien sûr, pour combattre la colonisation, la lutte armée était nécessaire. Mais pour des communistes, cette lutte ne peut pas être séparée de l'intervention consciente des masses, de leur mobilisation et de leur volonté. À l'opposé, la façon dont les dirigeants du FLN choisirent de mener le combat contre le colonialisme montrait à quel point ils étaient hostiles à une intervention autonome des masses. Les dirigeants du FLN enrôlèrent dans les maquis des dizaines de milliers d'hommes et de femmes venus des classes les plus pauvres de la population. Mais ils firent tout pour que jamais ceux-ci ne puissent diriger leur propre lutte. Au contraire, les dirigeants du FLN tenaient à les contrôler strictement, à décider à leur place, à les tenir séparés du reste de la population. Le FLN cherchait à construire une armée obéissante pour en faire un outil afin de prendre le pouvoir. Quant aux centaines de milliers de travailleurs algériens présents en France, le FLN leur demanda juste d'apporter un soutien financier conséquent. C'est toute la différence entre une politique nationaliste et une politique révolutionnaire. Les travailleurs algériens étaient au cœur de la métropole, dans les usines de la bourgeoisie française. Ils auraient pu être une force immense contre l'impérialisme, à la condition d'avoir une politique en direction de leurs frères de classe, les travailleurs français. Mais pour cela, il fallait justement choisir de combattre non seulement le colonialisme, mais l'exploitation capitaliste. Au contraire, le FLN se méfiait des travailleurs algériens et préféra en faire des cotisants plutôt que des combattants, quitte à éliminer ceux qui n'obéissaient pas. Durant toute la guerre, la préoccupation du FLN fut de s'imposer comme la seule direction politique. Les autres courants durent se soumettre ou disparaître. Pour les représentants de la bourgeoisie algérienne, ce ne fut pas compliqué. Quand ils sentirent le vent tourner, ils rejoignirent le FLN sans état d'âme. Ferhat Abbas fut non seulement accueilli à bras ouverts, mais il devint tout de suite membre de la direction du FLN, avant d'être choisi comme premier président du gouvernement provisoire. En effet, ce représentant de la bourgeoisie permettait au FLN de marquer ses choix sociaux et ses choix politiques de façon irréfutable. Le problème fut plus ardu avec deux autres courants populaires, les militants de Messali et le Parti communiste algérien, car ils représentaient une menace plus grave pour le FLN. Le parti de Messali était devenu le MNA, le Mouvement National Algérien. C'était le parti le plus implanté parmi les travailleurs algériens, des deux côtés de la Méditerranée. À partir de 1955, le MNA se lança aussi dans la lutte armée. Des tentatives de rapprochement eurent lieu entre lui et le FLN. Mais justement, ils étaient en concurrence sur le même terrain nationaliste. Il ne pouvait y avoir deux porte-paroles, deux États, deux directions politiques. Alors ce fut la guerre entre eux. En 1957, les combattants FLN massacrèrent 300 hommes dans le village de Melouza, réputé messaliste. Et tout au long de la guerre, des milliers de militants furent assassinés, en particulier les militants ouvriers algériens en France. Le FLN fit disparaître politiquement et quasiment physiquement son principal concurrent. Le FLN ne pouvait non plus admettre l'existence du PCA, aussi stalinien fut-il. Celui-ci, après s'être contenté de réclamer des solutions démocratiques aux problèmes algériens, en 1954, avait rejoint la lutte contre le colonialisme. Quelques militants du PCA avaient pris le maquis dans leur coin grâce aux armes volées par des soldats communistes. Et nombre de communistes militaient contre la domination coloniale. Mais le FLN ne pouvait pas tolérer l'existence d'une force politique qui se réclamait de la classe ouvrière. Il somma le PCA de se dissoudre tout simplement dans le FLN. Le PCA se soumit en juillet 1956 et disparut jusqu'à la fin de la guerre en tant que parti. Plus généralement, c'est à l'ensemble de la population que le FLN imposa une véritable dictature, et cela avant même la victoire. Les villages suspectés de pactiser avec la France étaient incendiés et leurs habitants de plus de 20 ans massacrés. Tous ceux qui tergiversaient ou simplement ne respectaient pas les commandements du FLN subirent sa vengeance. Au nom de l'islam, il fut interdit de boire et de fumer, enfin de boire de l'alcool et de fumer. Les contrevenants pouvaient avoir le nez coupé. En 1956, lors du congrès de la Soumam, du nom de la vallée en Kabylie où il se tint, le FLN inscrivit dans son programme une réforme agraire. Il s'agissait, je le cite, d'améliorer le revenu des paysans et de permettre l'industrialisation du pays. Mais derrière la promesse d'améliorer le sort des paysans, il n'y avait que la volonté de développer le pays pour gagner une marge de manœuvre face à l'impérialisme. Tous les nationalistes ont eu ce genre de politique. Les peuples n'y ont pas gagné la fin de l'exploitation. Et le développement économique des pays sous-développés est resté un leurre. Mais le plus important dans ce congrès de la Soumam ne fut pas ce discours vaguement socialisant. Pour le FLN, le plus important, c'était d'affirmer sa victoire politique comme unique direction de la lutte et donc comme futur pouvoir. Dans son combat contre la puissance coloniale, la population algérienne avait trouvé comme seul représentant des hommes dont les méthodes et les choix politiques annonçaient la dictature future. Durant la guerre, les camarades de Voix ouvrière dénoncèrent ces choix politiques du FLN. Mais cela ne les empêcha pas de soutenir la cause du peuple algérien. En 1957, dans un éditorial, ils expliquaient pourquoi. Je les cite. « Pour nous, travailleurs, il s'agit de savoir si nous sommes pour le peuple algérien, malgré ses dirigeants. car on ne peut assimiler l'un à l'autre, tout comme on ne peut assimiler le Rapelet à ses généraux ou à Ramadier, le chef du gouvernement, ou Ramadier, donc le chef du gouvernement, au métallo de Billancourt. Quand le peuple algérien lutte contre le capitalisme, il appuie notre propre lutte contre ceux qui nous exploitent. Dans ces années 1954-56, des révoltes secouaient l'ensemble du Maghreb, du Maroc à la Tunisie, en passant par l'Algérie. Face à ce danger d'embrasement généralisé, la bourgeoisie française préféra céder l'indépendance au Maroc et à la Tunisie. En Algérie, la présence d'un million de pieds noirs rendait cette idée d'indépendance plus difficile à envisager. Pourtant, aux élections de janvier 1956, la population française exprima son ras-le-bol de la guerre en votant pour une coalition SFIO-PCF qui prônait la paix en Algérie. Le PCF remporta 25% des voix et le socialiste Guy Mollet se retrouva à la tête du gouvernement. Le gouvernement de Guy Mollet aurait pu appliquer sa politique de paix en Algérie sans même se retrouver en contradiction avec la bourgeoisie, dont une partie croissante n'avait plus d'intérêt direct dans la colonisation. Un certain nombre de capitalistes commençaient même à voir d'un mauvais œil cette guerre qui coûtait cher. Ils auraient préféré que les moyens mis en œuvre pour maintenir la colonisation soient utilisés à les aider, eux, dans leur concurrence internationale, par exemple. Mais ça, c'était sans compter avec la lâcheté des dirigeants socialistes qui capitulèrent facilement devant les plus réactionnaires. Lors de sa première visite à Alger, Guy Mollet fut accueilli par des manifestations massives de pieds noirs qui tournèrent à l'émeute. Oh, qu'on se comprenne bien, Guy Mollet ne dut pas affronter des coups de feu, mais des jets de tomates. Et cela suffit à le faire reculer sur la nomination du nouveau gouverneur d'Algérie, jugé trop réformiste par les tenants de l'Algérie française. Alors, à partir de 1956, c'est au Parti socialiste français que revint la honte de poursuivre et d'intensifier cette guerre d'Algérie. Dès mars 1956, Guy Mollet se fit voter les pouvoirs spéciaux par les parlementaires, y compris les députés du PCF. Ainsi, sans en référer à l'Assemblée, il pouvait utiliser tous les moyens jugés bons pour poursuivre la guerre. En avril 1956, Guy Mollet envoya 500 000 hommes supplémentaires en Algérie. Ceux qui avaient déjà fait leur service militaire furent donc rappelés pour 24 ou 36 mois. Aucune force politique de gauche ne s'opposa à cette trahison, alors même qu'elle suscita de nombreuses réactions spontanées dans la population. Il y eut des refus massifs de partir, au cri de « aux chiottes l'armée, à bas Guy Mollet, la paix en Algérie !» Des jeunes, des femmes, des militants se couchèrent sur les voies pour empêcher les trains de partir. Des affrontements entre les rappelés et la police, des dizaines de manifestations eurent lieu dans tout le pays. Pour la première fois, la guerre provoquait une vague de contestation importante, une crise politique. En se battant pour ne pas partir, les rappelés affirmaient que cette guerre n'était pas la leur. Cela aurait pu être la base d'une vraie opposition à la guerre. Mais le PCF était bien trop responsable vis-à-vis de la bourgeoisie pour accepter de prendre la tête d'une telle lutte. Au contraire, il n'offrit aucune perspective au mouvement, alors même que de nombreux militants du parti y participaient. Laissés seuls, les rappelés, comme le reste de la population, furent bien forcés d'accepter leur sort. Les plus récalcitrants furent envoyés soit en prison, soit dans des camps disciplinaires en Algérie. Ils avaient fait ce qu'ils pouvaient, mais avaient été abandonnés par les partis qui se réclamaient de la classe ouvrière. Abandonnés et même poignardés dans le dos par ces partis. Car ce qui les attendait en Algérie allait marquer toute une génération. En Algérie, les soldats, dressés à la haine contre le FLN, commandés par de vrais tortionnaires, apprirent à mépriser les Algériens, à les humilier, à piétiner leur dignité. Et pour un certain nombre de soldats, ce fut aussi l'apprentissage de la torture. À partir de 1956, l'électricité, le supplice de l'eau, les coups, les viols se généralisèrent. Des unités furent spécialisées dans la torture. Les plus experts dans ce domaine étaient les régiments de parachutistes du sinistre colonel Bijard. Et comment ne pas citer Le Pen, qui a participé à toutes ces exactions, lui dont on a retrouvé le couteau dans la maison d'un Algérien arrêté et torturé par les paras. Des milliers d'Algériens furent assassinés ainsi. Combien de civils passèrent dans les geôles de l'armée, dans ces chambres de torture? Combien de civils furent battus, voire tués dans les villages visités par l'armée? Combien de femmes algériennes subirent sévices et humiliations? Combien d'enfants virent leur mère et leur père ainsi traités? En fait, c'est tout un peuple qui subit cette guerre et ses méthodes. Avec l'envoi du contingent, le FLN ne pouvait plus espérer gagner la guerre sur le terrain militaire. Alors, il décida de porter le conflit dans les villes par le biais du terrorisme. Une nouvelle fois, le choix du FLN de recourir à une politique d'attentat, de terrorisme individuel, n'avait rien à voir avec une intervention consciente de la population. Le 30 septembre 1956, deux bombes posées par de jeunes militantes du FLN explosèrent dans des lieux fréquentés par la jeunesse pied-noir. En réponse, Guy Mollet remit tous les pouvoirs à l'armée pour poursuivre la guerre. Les parachutistes avaient désormais les pouvoirs militaires, policiers, judiciaires et civils à Alger. Ce ne fut pas sans conséquences politiques. L'État bourgeois français se débarrassa de ses apparences de droit et de justice, montrant ce qu'il était et ce qu'il sera toujours, si la situation l'exige, un appareil de répression féroce contre la population. Les pouvoirs furent remis à Massu, général parachutiste, dont les titres de gloire allaient de la répression des mineurs français en 1947 à la guerre d'Indochine. Massu entama ce qu'on appela la bataille d'Alger. Les militaires voulaient éliminer le FLN de la ville. Pour cela, ils encerclèrent la ville arabe, la Casbah, avec des barbelés et des postes de contrôle. Les habitants ne pouvaient plus circuler librement. Puis, les paras commencèrent à fouiller les maisons une à une. Ils arrêtaient chaque jour des dizaines de suspects au hasard, en estimant que parmi eux, il y aurait forcément des hommes ou des femmes, membres du FLN ou ayant des informations sur lui. Alors tous les suspects étaient torturés. Entre 30 et 40% des hommes de la Casbah furent arrêtés à un moment ou à un autre de la bataille d'Alger. La torture avait lieu dans toutes les casernes de paras, massives, organisées et acceptées par le pouvoir. Tous les jours, le nouveau gouverneur socialiste de l'Algérie, Robert Lacoste, recevait un compte-rendu détaillé des actes des paras de la nuit. Tous les politiciens français étaient au courant des méthodes utilisées par les paras, dont ils vantaient les succès. Avec ces méthodes, les paras purent remonter les filières jusqu'aux dirigeants du FLN à Alger. Larbi Ben Mehdi fut arrêté et assassiné dans les prisons françaises. En septembre 1957, le FLN était démantelé à Alger. L'un des responsables de la bataille d'Alger, le lieutenant-colonel Trinquier, qui a agi sous les ordres de Bijard, expliqua des années plus tard, je le cite, « Je pense que nous avons été très efficaces, mais ce n'est pas le genre d'opération que je referai avec plaisir. » C'était une mission très difficile, hors norme, pour l'éthique d'un officier occidental et chrétien de surcroît. Mais nous étions pris par la mission et nous avons essayé de la remplir le plus humainement possible. Il est conscient parce qu'il rajoute, même si ce mot paraît un petit peu surprenant dans la bouche d'un officier para qui a participé à la bataille d'Alger. Et quand on lui demande s'il a eu des regrets pour les milliers d'assassinats, les 4000 disparus de la bataille d'Alger, ou pour les torturés, le très chrétien Trinquier explique que, bien sûr, il eut des regrets, qui l'empêchèrent d'entrer dans une église pendant 2 ans. Aucun tortionnaire de la bataille d'Alger ne fut jamais poursuivi pour ses crimes. En revanche, Noël Favrelière, soldat en 1956, fut condamné 2 fois à mort par contumace. Pourquoi ? Parce que lorsqu'il comprit que la corvée de bois signifiait que le prisonnier qu'il avait sous sa garde allait être jeté vivant du haut d'un hélicoptère, il délia son prisonnier et déserta en l'emmenant avec lui. C'est son histoire qui fut à la base du film « Avoir 20 ans dans les Aurès ». Alors oui, tous ceux qui, hier comme aujourd'hui, se permettent de renvoyer dos à dos le FLN et l'armée française, ne font qu'exonérer de ces crimes l'armée coloniale. Renvoyer dos à dos, d'une part, les atrocités commises par un des États les plus puissants du monde, qui en 130 ans avait exterminé une partie de la population, semé la misère, laissé comme souvenir les violences, les razzias et les enfumades, et qui continuait en répondant par de véritables pogroms à chaque révolte de la population, et d'autre part, celle de combattants pour leur indépendance, les renvoyer dos à dos, ne servait et ne sert toujours qu'à une chose, ne pas prendre parti pour la liberté d'un peuple opprimé et disculper la puissance coloniale et son armée. À partir de 1957, des oppositions à la guerre commencèrent à s'exprimer. En Algérie, des militants, bien souvent communistes, prirent fait et cause pour le peuple algérien. Le communiste Fernand Yvetot posa une bombe pour le FLN dans l'usine où il travaillait. Il fut condamné à mort et Mitterrand, devenu ministre de la Justice, refusa de le gracier. Maurice Audin, un autre militant communiste, arrêté et torturé par les paras, disparut définitivement. Henri Allègue, lui aussi militant du PCA, fut torturé par les militaires français. Mais malgré la censure, des livres et des témoignages commencèrent à circuler pour dénoncer les méthodes de l'armée. Des hommes comme Pierre Vidal-Naquet menèrent le combat contre la torture durant toute la guerre et même au-delà. La question, le pamphlet bouleversant écrit par Henri Allègue, dans lequel il fait le récit des tortures qu'il subit, permit de faire connaître la réalité de la guerre coloniale et de la présence française en Algérie. Toute une génération découvrait les mensonges de la démocratie bourgeoise, de son armée et de ses politiciens. Ce fut un choc pour beaucoup de jeunes et une raison de s'engager politiquement. Du côté du PCF, ils ne trouvèrent que des formules creuses comme la paix en Algérie. La paix, quelle paix ? Après tout, avant 1954, c'est la paix qui régnait en Algérie. Ce mot d'ordre visait à camoufler le fait que le PCF ne défendait pas l'indépendance pour l'Algérie et qu'il ne lutta jamais réellement contre cette guerre coloniale. Le seul parti qui exprima une opposition à cette guerre coloniale fut le PSU, le Parti Socialiste Unifié. Grâce à ses prises de position et aux manifestations qu'il organisa, il attira à lui une partie de la jeunesse révoltée contre cette guerre. Pourtant, ce parti, dirigé par des anciens notables socialistes, dont Depreux, le père du dernier statut de l'Algérie, restait réformiste. Ses dirigeants ne visaient qu'à en faire une force électorale tout à fait responsable vis-à-vis de la bourgeoisie. Mais face au Parti socialiste et à ce que d'aucuns appelèrent le national-molétisme, et face au PCF, les positions du PSU apparaissaient comme radicales. D'autres militants choisirent d'aider la lutte des Algériens, comme ceux du réseau Janson, du nom de Francis Janson, son fondateur, qui devinrent des porteurs de valises pour les fonds et les armes du FLN. En 1960, lorsque ces militants furent arrêtés et jugés par un tribunal militaire, quelques intellectuels, dont Jean-Paul Sartre, eurent aussi le mérite de les soutenir en publiant un appel à l'insoumission. Mais au-delà de ces gestes et de ces dénonciations, ce qui manqua cruellement, ce fut un parti révolutionnaire communiste qui milite pour que la classe ouvrière en France, dont une grande partie rejetait cette guerre coloniale, mène la lutte contre la bourgeoisie sur son propre terrain en défendant ses propres intérêts par les grèves et les actions politiques. Sans se ranger derrière le nationalisme du FLN, un tel parti aurait permis aux travailleurs en France d'affaiblir l'impérialisme et de renforcer la lutte du peuple algérien.